Monsieur le Président.
On a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
J'ai laissé l'appétit de Robert Navarro pour les
De ce point de vue-là, j'ai manqué mon rendez-vous avec, avec les Français.
Chacun s'accorde à dire que rien ne va plus dans le système scolaire français. Cela ne daterait-il pas du moment où on a muté le ministère de l'Instruction publique en ministère de l'Éducation nationale ? Les élèves ont été broyés par une machine à fabriquer des ânes, ainsi que le constatent nombre d'enseignants. Et lorsqu'ils parviennent à franchir les portes de l'université, les professeurs s'interrogent. D'autant que dans le contexte du mondialisme ambiant, les universités sont mises en concurrence sur le plan mondial. Il semble donc plus que légitime de donner la parole à ceux qui président ces dites universités. Mesdames les présidentes, monsieur l'absent, nous vous écoutons. Et je me tournerai tout d'abord vers Anne Frey, la présidente de Montpellier 3. Mais quelle mouche vous a piqué ? Dites-nous la teneur de cette lettre que vous avez adressée à François Hollande. Et pourquoi à lui et seulement à lui ?
À lui et seulement à lui, parce que, tout simplement, je crois que je représente un certain nombre de socialistes ou de personnes qui votent pour ce parti, sans en faire partie moi-même d'ailleurs, et que c'est à ce candidat-là dont je pense qu'il va gagner, et dont j'espère qu'il va gagner, que j'avais quelque chose à dire, à savoir que son programme ne nous satisfaisait pas, nous qui allons voter pour lui, parce que ce programme s'inscrivait plus dans une continuité, avec quelques retouches, semble-t-il, plutôt que dans une vraie transformation, celle que nous attendons de ce candidat.
Et alors, pour nos auditeurs, rappelez-nous un petit peu le contenu de cette lettre que vous lui avez adressée.
Essentiellement, je lui rappelais que les 5 années de mandat que nous venons de vivre ou de subir n'ont pas été, comme c'est annoncé par l'ancien président et le nouveau candidat, si j'ose dire, comme un grand succès de ce quinquennat, mais au contraire comme une période qui a été très difficile pour les universités, qui est arrivée à un défaut de démocratie, un saccage de la formation des maîtres, par exemple, à un financement des universités qui n'est pas satisfaisant, contrairement à ce qui a été annoncé, à une compétition permanente entre les universités pour gagner un financement qui devrait leur être assuré pour les missions essentielles qu'elles ont à remplir, c'est-à-dire la recherche et la formation. Donc voilà, et cette dénonciation, eh bien, on ne l'entend pas. En tout cas, on ne l'entendait pas assez, me semble-t-il, dans la bouche de François Hollande, pour dire que non, la situation n'est pas satisfaisante et que oui, on veut autre chose et on veut des réformes qui ne soient pas celles qu'on nous a infligées pendant 5 ans.
Et d'autant que François Hollande avait, semble-t-il, axé sa campagne essentiellement sur la jeunesse.
Tout à fait, oui.
Et donc, visiblement, le programme qu'il propose pour la jeunesse ne vous satisfait pas, quoi.
Disons que il ne nous satisfaisait pas en ce sens qu'il n'y avait pas vraiment d'annonce claire. Alors, on peut espérer que ça va s'infléchir et qu'il y aura des annonces plus claires. Mais au moment où j'ai écrit cette lettre, ce n'était pas le cas. Et on avait l'impression que, quelque part, bon, on allait continuer dans la LRU, on allait continuer dans les programmes d'excellence, on allait continuer dans un certain nombre de choses que nous dénonçons.
Oh, mais là, je vais m'adresser à la citoyenne, plus qu'à la présidente de l'université. Il y a un truc que je ne comprends pas bien là. Donc François Hollande, il ne vous satisfait pas, son programme ne vous satisfait pas, et pour autant, vous allez quand même voter pour lui. C'est de l'aveuglement ou...
C'est un peu ce qu'on voulait lui dire, c'est-à-dire qu'il ne nous donnait pas envie de voter pour lui. Enfin, moi, en tout cas, avec ce que j'entendais, ça ne me donnait pas envie de voter pour lui.
Alors du coup, la question qui va juste derrière, vous a-t-il répondu ?
Non, il ne m'a pas répondu directement. Mais je crois que cette lettre, c'était un cri. Ce n'est pas à moi qui dois répondre, c'est...
À vous, ou aux universitaires en général, parce que je n'ai pas connaissance, mais je ne peux pas me tromper, qu'il ait répondu quoi que ce soit à votre lettre.
Je pense qu'il doit répondre par son programme. Je n'attends pas de réponse directe en soi. Je dirais que c'était un cri d'alarme au moment où il commençait à énoncer certains des éléments de son programme. C'était un cri d'alarme pour dire que, à mon sens, ça n'allait pas dans la bonne direction. Ce cri d'alarme a été repris par beaucoup de gens derrière, qui ont fait d'ailleurs des propositions.
Alors, quelles propositions ont pu être faites suite à votre lettre ?
C'est un peu compliqué. Il y a eu un certain nombre de textes qui sont sortis demandant que l'on revoie en profondeur au moins la LRU, si on ne veut pas
Pour nos auditeurs, la LRU, c'est ?
Alors, c'est la loi d'autonomie des universités donc qui a entraîné énormément de choses, à la fois sur la gouvernance des universités, sur la façon dont elles sont gérées, sur ce qu'on appelle aussi l'autonomie des universités.
Autonomie ou privatisation ?
Écoutez, moi en tout cas, ce que j'en pense, c'est que c'est une fausse autonomie qui a d'autres buts que l'autonomie. C'est-à-dire que, vous savez, faire passer les salaires aux universités, ça n'a de sens que si on a une marge pour utiliser ces salaires. S'il s'agit simplement de voir comment on va geler des postes pour payer autre chose, l'autonomie, elle ne sert pas à grand-chose. Voilà.
Donc vous réclamez quoi ? Plus d'autonomie pour aller vers l'indépendance ou moins d'autonomie pour retourner au statut précédent ?
Moi, je crains surtout que l'autonomie telle qu'elle est envisagée là, elle soit contradictoire avec la démocratie. Je pense que pour beaucoup de ces domaines, on va vers quelque chose qui est beaucoup moins démocratique, qui n'est pas une représentation auquel on tenait beaucoup des personnels, des étudiants, des gens de l'université.
C'est pas de la démagogie, ça, de donner des responsabilités au personnel et surtout aux étudiants ?
Non, je crois pas. C'est normal qu'ils s'expriment sur ce qui est leur vie et leur formation.
Ils ont les compétences pour pouvoir s'exprimer. Alors les personnels, certainement, j'ose l'espérer. Mais les étudiants, ils ont une compétence pour s'exprimer sur les formations. Imaginons en collège ou en lycée, ça existe dans certains pays où les élèves notent les profs.
Alors, ils ont une compétence au moins pour dire un certain nombre de choses, pas pour en décider tout seul. Dans les représentations des conseils, il n'y avait jamais une majorité aux étudiants. Mais il y a une voix à ces étudiants-là, et c'est important qu'il y ait cette voix.
Ah, cette voix qui est donnée aux étudiants, toujours pour nos auditeurs, ça se passe au travers d'élections.
Oui,
c'est-à-dire que ce sont les syndicats étudiants dits représentatifs qui éventuellement peuvent avoir voix au chapitre, sachant qu'il y a combien d'étudiants qui votent lors de ces élections ?
Alors ils sont peu, mais d'ailleurs il n'y a pas que les syndicats qui sont représentés, il peut y avoir des listes totalement non syndicales.
Mais peu, combien votent ? On est dans de quel ordre ? Moins de 10% ?
Autour de 10%.
Autour de 10%. Mmh. Autrement dit, ils représentent au mieux, s'ils sont majoritaires, un gros 5%.
Vous savez, c'est le principe de la démocratie. Ils ne s'expriment que ceux qui veulent s'exprimer. Si les autres estiment qu'ils n'ont rien à dire ou que c'est pas de cette façon qu'ils veulent s'exprimer, on ne peut pas non plus les forcer à donner leur avis.
Oui, vous prenez en Belgique par exemple, pas pour le système étudiant, mais pour le système purement électoral où le vote est obligatoire.
En tout cas, il ne l'est pas au niveau des universités.
Vous le souhaiteriez ?
Vous savez, je ne sais pas si ceux qu'on oblige à voter ou à dire quelque chose sont les plus compétents pour dire quelque chose. Peut-être que tout simplement, ils n'ont pas envie...
Les Belges, ils sont au top parce qu'ils ont fini par voter pour ne pas avoir de gouvernement pendant 15 mois.
Oui, c'est donc, ça. On
s'est aperçu que pendant les 15 mois, la croissance économique s'était améliorée, que la dette avait diminué, et depuis qu'il y a un gouvernement en Belgique, la croissance s'est effondrée, la dette a augmenté. Donc à la limite, on dirait presque que c'est super, quoi.
J'ai tendance à penser plutôt qu'il faut informer les étudiants de cette possibilité, de ces droits, plutôt que de les forcer.
Donc des droits, mais pas de devoirs.
Ah si, moi
Vous êtes un peu 68ard, là, non ?
Non, je suis au contraire très attachée. Les étudiants de mon université vous diront que je leur dis très souvent ce que vous venez de dire. C'est qu'ils ont des droits, mais qu'ils ont aussi des devoirs, et qu'ils sont priés de remplir ces devoirs avant de réclamer leurs droits.
Quels devoirs vous entendez imposer en quelque sorte à vos étudiants ?
Alors, imposer, je ne sais pas si j'en ai le pouvoir, mais le devoir, c'est d'abord d'être étudiant. Je crois qu'un des gros problèmes qu'on a à l'université, c'est celui des inscriptions qui ne sont pas suivies d'effet, c'est-à-dire des étudiants qui s'inscrivent à l'université, en particulier en première année, et qui, en fait, s'inscrivent à l'université parce que ça leur donne un statut. Ça leur permet, en attendant de rentrer dans le monde du travail, en attendant de faire autre chose, d'avoir ce statut, voire parfois des bourses.
Les bourses.
Parfois, oui, mais ce n'est pas toujours le cas.
Notamment pour des étudiants justement boursiers qui vont s'inscrire à l'université, sachant qu'ils n'y mettront pas les pieds, parce qu'ils sont dans des écoles privées.
Oui, ça arrive aussi assez souvent, parce que c'est la seule chose qui peut leur donner ce statut d'étudiant.
Et en particulier
aussi la protection, enfin une protection sociale, hein, et ça, médicale.
Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement presque légiférer là-dessus pour donner l'autorisation aux étudiants boursiers d'aller s'inscrire dans des écoles privées et recevoir les bourses, ou alors supprimer les bourses à tout étudiant boursier qui ne vient pas en cours? Est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer là-dessus ?
Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais effectivement, c'est le gros problème. Parce qu'on dit en première année que nos étudiants réussissent à 40%, enfin en tout cas à moins de 50%. Or, moi, je me sens responsable des étudiants que j'ai en face de moi et à qui je fais cours. Ceux-là, s'ils ne réussissent pas, je peux penser que c'est en partie ma faute. Mais ceux qui ne viennent pas du tout, je me refuse absolument à ce que ce soit la responsabilité de mon université.
Et vous pouvez les chiffrer, enfin donner un ordre d'idée ?
Oui, on peut les chiffrer, on le fait d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je le fais dans mon université. C'est-à-dire qu'on voit par exemple ceux qui ont des moyennes très basses, entre 0 et 1 de moyenne, entre 1 et 2 de moyenne. Et c'est, en première année, c'est une part importante des étudiants, sans parler de ceux qui se sont inscrits administrativement et qui ne s'inscrivent pas aux examens.
Mais par exemple,
pour vous donner un ordre d'idée, les étudiants qui ont entre 0 et 1 de moyenne, c'est-à-dire des gens qui sont venus, qui ont passé une épreuve, ou pas du tout, enfin, par rapport aux premières années, il y a 2 ans, il y en avait 7%, et l'an dernier, ça a brusquement augmenté, on en a eu 15% sur les premières années.
Ah, est-ce qu'ils vont être négligeables,
quoi. Donc ça fait, on avait à peu près 5000 étudiants en première année, vous voyez, il y en avait... je ne sais plus exactement, plus de 500.
Ah oui.
Donc, c'est sans parler de ceux qui avaient deux, voilà. Donc, je crois que c'est vraiment le problème majeur des premières années. C'est-à-dire déjà savoir qui est vraiment étudiant, qui ne l'est pas, pourquoi on fait cette inscription à l'université.
Alors, si on change un tout petit peu de registre, comment est-ce que vous interprétez l'absence prévue de Philippe Auger et l'absence imprévu, puisqu'elle vient juste de téléphoner, de Daniel Hérin, autrement dit, refus de discuter avec vous au travers de médias ?
Oh non, avec moi, il n'y a pas de raison, on discute souvent ensemble.
Avec vous, pas personnellement, mais avec, oui. J'allais dire, la présidente de Montpellier 3, quoi.
Oh non, il n'y a pas d'ostracisme de ce type entre les présidents d'université, non.
Donc c'est refus de médiatiser la chose
Non, je pense surtout emploi du temps très chargé, enfin, je suppose.
Bon. On va passer à la question
le
du héros.
Le mien est aussi, mais bon.
Et oui, la question du héros du jour.
Oui, Anne Fraisse. Bon, moi, j'ai trouvé que votre lettre, c'était un petit peu un coup de chaleur pour le peuple de gauche, parce que quelque part, bon, c'est courageux de ce que vous évoquez au sein de cette lettre, c'est vraiment la question politique. La question politique après 5 ans de lois qui déconstruisent l'université pour en faire, selon le modèle néolibéral, pour en faire une université privée. Et vous allez droit au but. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère du reste. Quand vous parlez, par exemple, de la duperie du plan campus, dont le partenariat public-privé, dites-vous, coûtera 3 fois plus et ça sera au profit des grandes entreprises de BTP. Donc, question politique de fond. Et ce qui se pose comme question, c'est quelque part au Parti Socialiste, c'est comment est-ce qu'on peut revenir sur cette déconstruction d'un système éducatif, social, de soins hospitaliers, etc. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui déconstruire cela ?
C'est très difficile et c'est bien le problème. C'est peut-être pour ça que c'était un petit peu une certaine facilité de ne pas... de ne pas aller dans ce sens et de se dire, bon, maintenant, il y a des choses qui sont faites et on va les laisser puisque, finalement, c'est passé, ça fonctionne, mal, mais ça fonctionne. Et je crois que oui, la lettre que j'ai adressée à M. Hollande, c'était bien ça, c'est lui dire que non, je crois qu'il ne faut pas se résigner à ce genre de choses. Mais certes, c'est difficile de déconstruire, c'est d'autant plus difficile que, je dirais, ça a été construit non seulement sur le quinquennal, mais beaucoup, beaucoup plus loin, puisque quand on regarde sur l'opération Campus, quand on regarde sur les initiatives d'excellence, c'est l'avenir qu'on engage. C'est-à-dire que M. Sarkozy, il a fait des plans sur 25 ans. Le remboursement de l'opération Campus, par exemple, c'est 25 ans. Donc, ce n'est pas simplement son gouvernement qui l'a engagé, c'est la politique de la France pendant des années. Et ce qu'il laisse, et c'est ce que je dis dans ma lettre aussi, c'est des dettes. C'est des dettes que l'État français devra payer pendant des années. Et c'est un mode de financement qui est tout à fait discutable.
Et vous pointez notamment dans son entourage les conseillers qui le conseillent sur l'enseignement supérieur qui auraient participé aussi à l'élaboration avec Valérie Pécresse de cette fameuse réforme.
Je pose surtout l'interrogation de savoir s'il entend cette voix autre. C'est-à-dire que qu'il y ait une gauche socialiste qui ait des idées qui se rapprochent en matière d'université de celles qui a été mise en place, enfin des idées qui ont été mises en place pendant ce quinquennat, je crois que c'est une réalité. Il y a eu un certain nombre de présidents d'université qui étaient tout à fait favorables à la loi LRU, c'est vrai. Moi, ce que je lui demande, c'est est-ce qu'il est capable d'entendre une voix plurielle à gauche et de ne pas s'arrêter à une seule façon de concevoir les choses.
Si on en vient à la situation actuelle des universités, à Montpellier, parlons de Montpellier, au niveau des effectifs, des locaux, des finances, où est-ce qu'on en est ?
C'est assez différent selon les universités. D'abord parce que à Montpellier, les universités sont divisées de façon très disciplinaire. Et il faut savoir que les étudiants, je dirais, sont financés aux universités en fonction de leur discipline. C'est-à-dire qu'un université un étudiant de droit ou de lettres, je dirais entre guillemets, vaut moins cher, rapporte moins à son université qu'un étudiant de sciences.
On est dans quel ordre de prix pour nos auditeurs ? Un étudiant en fac de lettres ou fac de droit, combien rapporte-t-il, entre guillemets, à l'université ?
Alors plutôt qu'une question de prix, je vais vous donner une question d'échelle. Enfin, un étudiant, on a un chiffre qui nous est appliqué. Un étudiant de lettres, par exemple, c'est 1,1. Alors qu'un étudiant de sciences, ça peut monter jusqu'à 2, 2,5 ou 4. Enfin, un étudiant de technologie, par exemple, ça va jusqu'à 4.
On est dans quel ordre de coût ?
C'est difficile à dire par étudiant, parce qu'il n'y a pas absolument que ça qui est donné. Je ne peux pas vous donner un chiffre. Mais par contre, savoir qu'un étudiant de lettres, c'est 2 à 4 fois moins qu'un étudiant de sciences.
D'accord.
Voilà. Ce qui change énormément les budgets. Le budget total d'une université, par exemple, quand on a, comme moi, une université où on a des lettres et sciences humaines.
D'accord. On en vient à Montpellier 3, proprement dit. Il y a des statistiques qui ont été publiées récemment concernant les résultats des universités, dont celle de Montpellier 3. Et j'ai lu, notamment dans Midi Libre, que vous vous étiez flatté du bon pourcentage de reçus en licence. Entre ceux qui faisaient la licence en 3 ans, enfin, etc. Très bien, mais c'est quand même pas la vocation numéro un de l'université. Vocation numéro un, et c'est peut-être en ça qu'on peut dire telle université est plus qualitative que telle autre. Quels sont vos résultats au niveau de Montpellier 3 en termes de CAPES et en termes d'agrégation ? Parce que si on a, je vais exagérer, 100% des étudiants qui ont une licence et 0% qui ont le CAPES ou l'agrég, c'est pas le top, quoi. C'est un peu ce qui est arrivé au camarade Besancenot, quoi. Après 5 ans d'études en histoire, il a passé X fois le CAPES et l'agrég. Au bout du compte, on lui dit « t'es un âne », après il a passé les concours de catégorie B, on lui a dit « t'es encore un âne », après il a passé facteur, et il finit à 1000 euros par mois, avec son bac plus 5, du coup il a la haine, du coup il est au NPA. Bon, est-ce que tous les étudiants de Paul Valéry sont condamnés à prendre leur carte au NPA, ou est-ce qu'il y en a quelques-uns qui réussissent le CAPES ou l'agrégation ?
Alors, d'abord c'est loin d'être le seul débouché des étudiants de Paul Valéry. Mais je tiens à vous rassurer, nous avons d'excellents résultats et au CAPES et à l'agrégation.
On est dans quel ordre d'idées ?
Alors, ça dépend un peu des disciplines et des différents domaines. Mais on est largement au-dessus de la moyenne en France.
De la moyenne nationale.
Oui. Et on a d'excellents résultats, en particulier dans les domaines des lettres, des langues.
Oui, des langues, c'est une vieille tradition montpelliéraine, me semble-t-il.
Tout à fait, oui.
Et en histoire, bon, c'était plus aléatoire. En géographie, c'était une catastrophe.
En fait, le CAPES, il est à la fois histoire et géographie. Et la
géographie, CAPES, oui. Le CAPES, voilà. Oui, quant à l'agrégation, voilà. Elle est différenciée.
Effectivement, la géographie chez nous est beaucoup plus tournée vers des aspects professionnels autres que l'enseignement, parce que
Excusez-moi, elle est toujours divisée, la géographie, en Montpellier 3 et Montpellier, enfin, en UFR 3 et UFR 4, où il y avait une moitié de géographie qui était géographie humaine sur l'UFR 3. Et,
non, elle est entièrement à l'UFR 3.
L'UFR 4 a été rapatriée sur UFR 3, il y a une...
Enfin, en tout cas, la géographie est entièrement à l'UFR 3.
Entièrement, d'accord. Bon,
voilà, donc ce n'est pas les seuls débouchés. Je crois qu'il ne faut pas penser l'université de lettres uniquement en termes de concours d'enseignement. Alors, on est bon dans ces concours, mais on a... même pas un tiers de nos étudiants qui envisagent de passer des concours administratifs ou des concours d'enseignement.
Que diable peut-on faire si on a un master 2, mettons, d'histoire, autre que enseignant ?
Heureusement qu'il n'y a pas que ça, parce que la plupart de nos étudiants se placent ailleurs. On a des débouchés dans... Alors d'abord, il y a de plus en plus de masters professionnels qui sont mis en place.
Et comment peut-on faire un master professionnel en histoire ?
Si, il n'y a pas que l'histoire en
termes... Je pose la question parce que je suis moi-même historien, donc heureusement, je suis prof, c'est mon métier. J'imagine mal quel métier j'aurais pu avoir en dehors de prof, voire accessoirement de faire de la radio.
Des débouchés qui ne sont pas uniquement des débouchés de profs. Bon, peut-être que vous faites les deux en même temps, mais on a un certain nombre d'étudiants qui, à la suite d'un master...
Et c'est mon métier de prof qui me nourrit.
Oui, ben moi aussi.
Voilà, après, le reste étant plus accessoire. La question du héros du jour, ouais, Jean-Marie Dine.
Sur la question quand même des débouchés, une des grandes problématiques aujourd'hui de l'université, c'est quand même la fin du premier cycle. Naguère, c'était le DUG où il y avait... un épurage important, et aujourd'hui en licence on est autour de 50% de gens qui sortent du système.
Et puis on peut mettre 20 ans ou 30 ans pour passer sa licence, ce qui n'était pas le cas avant.
Ce que d'ailleurs François Hollande a dit qu'il allait s'atteler à cette problématique dans son discours de Dijon sur l'université. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Alors, je crois surtout que quand vous parlez de la licence, c'est vraiment la première année. Les chiffres le montrent très clairement. Les chiffres de première année, c'est moins de 50% de réussite. Les chiffres de deuxième et de troisième année de licence, c'est 72% deuxième année, sans compter les redoublants ou ceux qui sont à Ajax, c'est-à-dire qui sont admis à continuer sans avoir eu l'ensemble de leur discipline. Et en troisième année, c'est 80%. Donc, quand on a franchi la première année, on a toutes les chances, de toute façon, d'arriver à avoir un diplôme. Mais pour ce qui est de la professionnalisation, il faut savoir que l'université, c'est quand même des études longues. Donc, autant on peut garantir qu'il y a un très bon taux d'insertion professionnelle à Bac plus 5, c'est-à-dire à master, que ce soit un master professionnel, voire un master recherche, autant en dessous, sauf quand il y a des licences professionnelles, c'est beaucoup plus difficile. L'université, actuellement en tout cas, ne professionnalise pas des étudiants au niveau de la troisième année après le bac.
Et comment, les débouchés, c'est après. Comment on explique ce taux d'échec de 50% en première année ?
On en parlait tout à l'heure, il y a des explications très variables. Il faut savoir quelle est la motivation de l'étudiant quand il rentre en première année, qu'est-ce qu'il veut faire ? Parce que oui, il peut faire d'autres choses, il peut ne pas savoir exactement ce qu'il veut faire. Il peut aussi, il y a ce gros problème des bacs technologiques et des bacs professionnels qui arrivent à l'université de façon détournée, parce qu'en général, ils voulaient aller soit dans un BTS, soit dans un IUT, et ils n'ont pas trouvé de place, puisque là, il y a une sélection. Quelque part, il y a une sorte d'inversion du système qui fait que les études courtes vers lesquelles on devrait diriger justement ces bacs professionnels ou ces bacs technologiques sont pris d'assaut par des étudiants qui viennent de bacs généralistes et qui s'en servent pour après passer en troisième année à l'université. Je crois clairement que l'université commence à avoir bonne réputation après la première et la deuxième année. Donc il y a beaucoup de gens qui se servent d'un IUT ou d'un BTS pour faire deux années et puis ensuite rentrer à l'université.
Vrai aussi pour les classes préparatoires, parce que vous récupérez au terme des classes préparatoires les étudiants qui n'ont pas eu les grands concours, mais qui pour autant ont eu deux années de classes préparatoires et donc ont un niveau nécessairement très supérieur aux bacheliers, quoi.
tout à fait. Et bon, c'est un système qui est un peu paradoxal parce que, en fait, quand on regarde les premières et deuxième années où on dit le taux est mauvais en première année, c'est pas vrai si vous arrivez avec un bac généraliste, un niveau correct et l'envie de travailler et en sachant ce que vous allez faire. Des étudiants qui nous arrivent dans ces conditions-là, ce sont des étudiants qui vont réussir sans le moindre problème. Vous prenez quelqu'un qui nous arrive avec un bac S ou un bac L ou ES chez nous, il a toutes les chances de réussir sans problème à l'université.
Bon, on va faire une petite pause musicale avant de passer à la deuxième partie, où là, on va parler du passé pour voir un peu comment on en est arrivé là.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Prends tous un chèque, c'est ok.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.